Bonsoir à tous. Elsa en parlait, on va en parler aussi. Évidemment, la dissolution actée par le chef de l'État bouleverse les forces politiques. À droite, Éric Ciotti ébranle les Républicains. À gauche, le Front populaire semble la seule issue, mais le passage est très étroit. Bien loin de cette agitation, une classe de terminale du lycée professionnel Simone Signoret de Bressuire révise son bac au château de la Roche de Cerizay, dans un cadre propice à la concentration. Mauzé-Thouarsais célèbre la renaissance du château du Bois Baudron. À suivre, le reportage de Dominique Héroux. Et puis, la commune de Saint-André-sur-Sèvre présente son expo annuel. L'art a aussi toute sa place en milieu rural.
Côté météo, temps agréable toujours pour demain.
À 20 jours des législatives, les partis politiques sont en surchauffe en annonçant la dissolution dimanche soir. À la surprise générale, Emmanuel Macron a créé un vrai séisme dans les formations politiques, à droite comme à gauche. À droite, Éric Ciotti a annoncé à la mi-journée vouloir d'une alliance avec le Rassemblement national. Le patron des Républicains a déclenché une levée de boucliers dans son propre parti, à l'image d'Armel Cassin, qui dirige les Républicains en Deux-Sèvres.
Je ne suis pas du tout la ligne de Monsieur Ciotti. Monsieur Ciotti n'a aucunement consulté les bureaux ni les présidents des fédérations. C'est une décision qu'il a prise tout seul, sans notre accord, sans notre avis. Et je ne suis en aucun cas sa décision, qui, à mon avis, est tout à fait personnelle. Je ne suis pas d'accord pour les compromissions. Aujourd'hui, nous voyons très nettement que la présidence du président Macron a mis la France dans une grave crise. Les Français ont besoin de pouvoir d'achat, ont besoin de faire face par rapport à la crise d'énergie, ont besoin d'être écoutés par rapport à la sécurité. Mais ce n'est pas une raison pour renier nos valeurs. Et nous sommes force de proposition. Nous proposons des mesures pour lutter contre cela, mais je ne suis pas d'accord, et mon bureau est d'accord avec moi. Nous ne sommes pas d'accord pour faire des compromissions.
Et cet après-midi, les sénateurs de Sévrien, Philippe Mouiller et Gilbert Favreau, se sont mis en retrait de leur parti, les Républicains. Ils demandent la démission d'Éric Ciotti. Gilbert Favreau.
C'est une maladresse grave du président des Républicains de prendre un parti qui, bien évidemment, n'est pas partagé par tous les adhérents à ce parti. Et donc, je pense, comme Philippe Mouiller d'ailleurs, qu'il nous appartient de dénoncer, au moins dans l'immédiat, de dénoncer cette affirmation et cette proposition, et éventuellement de maintenir une sortie de l'appareil des Républicains si l'appareil venait à confirmer la position du président.
Les sénateurs de Sévrien saluent l'initiative du président du Sénat, Gérard Larcher, qui a appelé au vote d'une motion de rejet d'une quelconque alliance avec le RN, texte qui a été voté à l'unanimité des sénateurs républicains. Pour Philippe Mouiller, il ne fait aucun doute qu'Éric Ciotti sera écarté. Toute initiative personnelle pour une alliance étant interdite par les statuts, cette sortie ébranle en tout cas un parti des Républicains qui doit préparer les législatives dans l'urgence. Mais y a-t-il encore des alliances possibles pour les Républicains? C'est la question que nous avons posée à Philippe Mouiller.
Oui, il peut y avoir des alliés locaux, mais c'est dans tous les cas des alliés qui sont dans l'arc républicain. Et voilà, mais le principe général, c'est que lorsque vous êtes une formation politique, vous avez des candidats qui portent vos couleurs. Vous avez, c'est le principe général. C'est essentiel, sinon c'est pas la peine d'avoir un parti politique. Voilà, donc il faut avoir des candidats qui portent vos couleurs, et parfois, au moment des second tours, il peut y avoir des discussions au regard des positions, des résultats. Mais dans tous les cas, le principe, c'est de garder un engagement dans l'arc républicain qui est pour nous essentiel.
L'initiative personnelle d'Éric Ciotti ne passe donc pas du tout chez les Républicains de Sévrien. À gauche, la constitution d'un front populaire paraît aussi souhaitable que bancale. Arrivée devant LFI dimanche dans la liste de Raphaël Glucksmann, la secrétaire départementale du PS, Nathalie Lanzi, n'entend pas aller trop vite localement dans l'attente des directives nationales. Mais on sent bien sur la première circonscription que si François Charron, LFI, s'est dit disponible, la secrétaire départementale n'entend pas dérouler le tapis rouge.
Pour l'instant, on ne met rien en place parce qu'on a chacun nos instances. Ce soir, on a un conseil national du PS. Je sais que le PC discute de son côté. Je ne sais pas ce que fait LFI, je ne vous cache pas. Voilà, donc chacun est dans son camp, j'allais dire, et puis on attend surtout les directives nationales. La dernière fois, on nous a clairement fait comprendre que c'était le score de Jean-Luc Mélenchon qui dictait les circonscriptions. Bah, là, je pense que quand on fait une analyse de, j'allais dire, c'est un îlot de gauche ou de tout au moins des quartiers roses hein, sur une carte bleue, clairement, c'est les socialistes, le centre gauche qui reviennent dans ce curseur-là. Donc oui, on a des chances, oui, je pense.
Vous n'avez pas encore discuté avec François Charon depuis hier matin ?
Non. J'ai discuté avec personne. Moi, j'attends ce que me disent nationalement. De toute façon, c'est le national qui distribue les circonscriptions. Donc on va pas discuter pour faire des ronds dans l'eau, pour faire des hypothèses. Chacun veut tirer la couverture à soi, donc ça sert à rien. Lui, il se positionne parce qu'il a été candidat la dernière fois, mais je rappelle que les règles ont changé. Donc attendons.
Et beaucoup de communiqués de presse tombent dans les boîtes mail des rédactions, à signaler celui du groupe de gauche, écologiste et citoyen au conseil départemental des Deux-Sèvres qui appelle à l'alternative d'une gauche unie pour préserver les principes et les valeurs de la République et lutter en faveur d'une société démocratique inclusive, libre et égalitaire. Fin de citation. Les candidatures devront être déclarées d'ici dimanche. Ce que l'on sait pour le moment, c'est que Jean-Marie Fiévet sera candidat à sa succession. Il aura face à lui Olivier Guibert, le délégué départemental du RN en Deux-Sèvres. Le RN qui place Dorothée Champeau sur la première circonscription et Mélodie Garraud sur la seconde circonscription, une circonscription de Sèvrienne que Delphine Bateau espère bien conserver. Bastien Marchive, le député sud de Sèvrien sortant, souhaite également reconquérir son siège à l'Assemblée nationale.
Une classe de terminale du lycée professionnel Simone Signoret de Bressuire bachote au château de la Roche.
22 élèves, toutes des filles, sont en pleine révision depuis lundi et jusqu'à mercredi midi à Cerizay dans un cadre bucolique et d'une grande quiétude. Un séjour révision nature pour cette classe de terminale ASSP, accompagnement, soins et services à la personne. 8 enseignants, parmi lesquels Célia Oustani, interviennent à tour de rôle.
Les élèves qui sont en difficulté justement face aux révisions ont la possibilité d'avoir les enseignants qui sont sur place et qui peuvent faire des cours un petit peu plus particuliers. Donc ces élèves-là, on a bien vu les autres années que ça portait ses fruits et qu'on n'avait jamais eu de rattrapage. L'année dernière, on n'avait pas fait le projet. Effectivement, c'était la première année où on avait eu deux rattrapages. Et pour ceux, au contraire, qui ont des facilités, c'est un moyen de se détendre et de pouvoir relâcher la pression avant les épreuves du bac.
Ouais, le contexte est important hein, quand on est en mode de révision, il faut se mettre dans les bonnes dispositions quoi.
C'est ça, et là ils peuvent se mettre à l'extérieur, ils peuvent être dans les chambres, ils ont des espaces de cours aussi au sein du château, donc les conditions sont parfaites.
On supprime aussi les portables hein, quitte à être connecté avec la nature, on évite d'être trop sur les écrans.
Exactement, de 9h à 18h, les élèves n'ont pas accès à leur téléphone pour se déconnecter du monde extérieur, ne pas être dérangés et on sent que c'est compliqué pour eux, ils ont cette habitude là, mais au final ils nous disent que ça leur fait beaucoup de bien.
Les élèves de cette classe de terminale vont devoir passer 5 épreuves écrites à partir de vendredi, sachant que les oraux sont déjà passés. Ambre Moreau et Célia Roy témoignent de cette expérience.
On fait des révisions, on n'a pas nos téléphones toute la journée, que le midi.
Comment vous le vivez ?
Moi, je le vis plutôt bien parce que je trouve que vu qu'on n'a pas nos téléphones, on est mieux concentré dans les cours, on n'est pas dispersé. On est tout à fond pour réviser le bac.
On demande de l'aide quand on a besoin, on s'entraide entre nous, on trouve des tactiques pour réussir à réviser.
On prend l'air, donc ça c'est plutôt cool parce qu'on peut réviser dehors, on peut réviser où on veut, donc c'est cool.
On fait des activités avec les profs, quand on comprend pas quelque chose on leur demande, ils nous réexpliquent le chapitre, ils sont vraiment là pour nous. Et puis on sait très bien que si on est 3 jours chez nous avec nos téléphones, on révisera pas autant que dans un château sans téléphone. Quand on l'a, on est tout le temps dessus. Hein. Bah moi j'arrivais pas hein. Pour réviser, dès que je recevais une notification, je le regardais. Hein. Moi on discute entre nous aussi, parce que quand on est ensemble, des fois on est sur nos téléphones, alors que là on peut discuter sans rien.
Et on souhaite bon courage à ces élèves qui séjournent au château de la Roche de Cerizay jusqu'à demain midi.
Mauzé-Thouarsais célèbre la renaissance du château de Bois-Baudron.
À 4 ans de travaux, 4 millions d'euros pour restaurer 4 ailes, dont une tour. Le chiffre 4 schématise la rénovation du château du Bois-Baudron à Mauzé-Thouarsais, désormais intégré à la ville de Thouars. Un manoir tiré à 4 épingles dans sa nouvelle livrée qui respecte l'esprit du Moyen-Âge, l'époque de Jeanne d'Arc avec le défi d'accueillir des activités d'aujourd'hui. Les précisions de l'architecte Raphaël Schwann, qui a écrit le projet de restauration avec sa collègue Sandrine Chessé du cabinet RSC d'Argentonnet et Tommy Crocoline de Dominique Hérault.
On a eu un parti pris vraiment de restitution de tous les éléments que nous avions. C'est vraiment une étape en deux temps. C'est-à-dire qu'on a donné la note de musique dans la première restauration et après, il fallait suivre la partition pour le deuxième projet et l'aménagement de toutes les activités. Parmi les défis que nous avons en tant qu'architecte du patrimoine, c'est toutes les découvertes, c'est de pouvoir les conserver et les transmettre aux générations futures. Dans la médiathèque, par exemple, il y a le conduit de cheminée dont on a retrouvé une utilisation pour le bâtiment moderne, comme un lieu d'évacuation qui était nécessaire pour le bâti. C'était aussi la trace des cheminées d'origine du château. Alors, la cheminée, il y a eu la redécouverte de la petite fenêtre à coussiège qui nous apporte une datation certaine. On sait que ça a été la propriété d'un des financiers du roi Charles VII. On peut penser qu'il a pu connaître cette baie à coussiège. Et puis, il y avait eu une très grande intervention sur la tour à l'époque du 19e qui nous a laissé des traces de portes très ouvragées qu'on a pu conserver. C'est devenu un escalier de secours et du coup on a pu conserver tout l'aspect vraiment patrimonial de cette tour sans la dénaturer. Voilà, c'est une belle aventure.
Il menaçait de tomber en ruine, le château de Bois-Baudron est donc sauvegardé et mieux, il s'est adapté pour mixer des utilisations diverses. 4 usages lui sont attribués, l'accueil périscolaire ou du centre de loisirs, la direction de l'école voisine, une salle polyvalente et au deuxième étage la médiathèque pour couronner le tout. La responsable du réseau, Amandine Gruau, se réjouit de la modernisation et de la mixité du site.
On est effectivement à plus de 10 minutes entre l'hypercentre de Thouars et puis ce nouvel équipement. Donc dans notre maillage, c'était aussi cohérent de pouvoir maintenir un équipement sur ce site. On a une petite dominante de collections jeunesse, mais pas que. On a bien des collections pour le public adulte. Donc on retrouve des romans, de la bande dessinée, des collections numériques, vous avez des albums. On peut fréquenter une petite bibliothèque sur sa commune et bénéficier malgré tout des plus de 100 000 documents qu'on propose dans le réseau à la demande. À Mosée, c'était l'occasion de faire une bibliothèque un peu connectée. Donc on a des tablettes, on a une table tactile numérique pour les enfants. Et on a aussi des ressources en ligne qu'on peut télécharger, mais qui sont portées sur l'ensemble du réseau. Le jeu vidéo sera plutôt consacré à la future médiathèque qui ouvrira dans quelques mois.
Dans les premiers mois de 2025, à Mosée, vendredi dernier, le maire de Thouars, Bernard Pénaud, a inauguré ce manoir dont il fait un exemple. En contrepoint, il a promis aux 180 enfants de l'école et aux 35 enseignants et personnels qu'il habite déjà une sorte de vie de château, ou presque. Un reportage de Dominique Hérault.
L'exposition artistique annuelle de Saint-André-sur-Sèvre depuis ce week-end.
Et au total, plus de 150 tableaux, gravures, enluminures et autres sculptures sont actuellement présentés à l'Andrésienne par 22 artistes. Artistes des Deux-Sèvres, de Vendée, du Maine-et-Loire, mais aussi de Paris. Et certains sont des fidèles, comme nous l'a indiqué Bernadette Ferrière, première adjointe en charge de la vie locale.
Il y a un petit noyau de peintres fidèles qui nous suit depuis plusieurs années, parce qu'on a commencé avec le premier mandat de Dany comme maire. Et donc, ces artistes nous sont fidèles. On va dire qu'il y a 7 artistes qui reviennent chaque année. Et puis là, on a la chance, parce qu'avant, on faisait ça dans la salle du Jardin du Cloître, qui était vraiment très exiguë. Et là, maintenant, on a un cadre qui s'y prête avec la rénovation de la salle polyvalente. Donc, c'est pour ça qu'on peut aussi mettre beaucoup plus d'œuvres et aussi des sculptures. Ce qu'on ne pouvait pas faire précédemment.
Et ces artistes-là, justement, vous qui les suivez, est-ce que vous avez le sentiment que leur technique a évolué? Ils ont changé un petit peu de thème, hein?
Alors, y en a qui se spécialisent vraiment dans leur domaine, et puis d'autres qui, par exemple, Gilles Perret, lui faisait beaucoup de portraits, et alors il continue, mais il a fait également des petits cadres là qui représentent certains lieux dans des communes qui sont aussi très jolis.
Une très belle exposition sur le thème de la lumière cette année, une expo chère au maire de Saint-André, Dany Grelier, également au micro de Patrice Bemanongi.
Vous savez très bien comment je suis attaché à la ruralité, et il est important aussi que la ruralité joue son rôle au niveau de l'art. C'est vrai que nous, on va être plus dans la nature, mais comme là vous pouvez le voir aujourd'hui, on est vraiment autour. D'ailleurs, il y a un artiste qui expose sur les animaux. On voit aussi avec les portraits, on voit aussi avec les différents paysages, et on est vraiment dans le thème de la ruralité entre autres. Il y a plusieurs EHPAD du secteur qui se déplacent, qui viennent voir. Il y a aussi le centre d'accueil au niveau de Moléon qui vient aussi, qui va se déplacer. Il y a aussi au niveau de Combran, ils viennent aussi pour les personnes âgées. Donc voilà, c'est très bien. Et ça se clôture samedi prochain, le 15, le samedi soir, parce que les participants de la marche gourmande pourront en même temps profiter de l'exposition.
toute cette semaine, cette expo à la salle Landrésienne de Saint-André-sur-Sèvre est visible sur rendez-vous. Ou alors samedi prochain, vous l'avez entendu, à partir de 10h en visite libre. Entrée gratuite. Un petit mot de sport pour terminer. Dans le cadre de Terre de Jeux 2024, le Niort Handball Club Souchy 1 organise dimanche 16 juin une journée de mise à l'honneur de la formation locale. Et Nicolas Tournat, champion olympique en 2020, champion d'Europe en 2024, ancien joueur du Niort HBS, sera présent tout au long de cette journée en plein cœur de Niort, Salle Barra et Place de la Brèche.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Et Fabien, un mardi relativement lumineux.
Demain, mercredi, nous aurons une matinée bien ensoleillée avant un ciel partagé entre soleil et nuages inoffensifs pour l'après-midi. Et puis comme aujourd'hui, le ciel se dégage de nouveau pour la soirée. Peu d'évolution côté mercure ce mercredi, 8 à 10 degrés pour les minimales, 18 à 21 pour les maximales.
Voilà pour toute l'info, et oui, avec le micro allumé, c'est mieux. Voilà pour toute l'info près de chez nous ce mardi. Merci beaucoup, on se retrouve demain matin.
Demain matin, 7h. Bonne soirée.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.